Bon, on va pouvoir fêter Noël au Québec, mais on ne fêtera pas gros le jour de l'an. Le gouvernement du Québec vient d'annoncer ses mesures pour le temps des fêtes. Donc, on pourra se rassembler les 24, 25, 26 et 27 décembre, en autant qu'on se confine une semaine avant, une semaine après. Les rassemblements pendant ces quatre journées-là, ben, c'est 10 personnes maximum. Et puis, avec ça, le gouvernement espère qu'on pourra tenir des réunions de famille tout en minimisant les risques d'une explosion de cas de COVID par la suite. Roxane Borges est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour, professeure Borges.
Bonjour, M. Quentin.
Alors, dites-moi, est-ce que ces annonces-là, vous les trouvez, est-ce qu'elles vous convainquent?
Mais en fait, ce que je comprends, c'est que le gouvernement essaie de trouver un équilibre là-dedans, veut faire plaisir aux Québécois qui souhaitent relâcher un peu du lest, mais veut aussi faire attention à la pandémie. Donc, c'est sûr que si on applique le principe de précaution maximum, elles ne sont pas satisfaisantes. Mais on peut pas appliquer le principe de précaution maximum si on veut avoir faire rouler l'économie, faire aller les enfants à l'école, s'assurer que le bien-être et la santé mentale de tout le monde aille bien. Donc c'est un équilibre difficile que le gouvernement a trouvé.
Est-ce que vous pensez qu'il a bien rempli le mandat? Est-ce que l'équilibre est correct?
Ben l'équilibre est correct dans la mesure où on est une personne en bonne santé et qu'on n'est pas une personne vulnérable, immunosupprimée, ou qu'on a plusieurs maladies chroniques. C'est-à-dire que pour toutes ces personnes-là, moi, je leur recommande fortement, je parle des grands-parents, des oncles et des tantes plus âgées, je recommande fortement de faire très, très attention dans ces parties de Noël-là, et d'essayer, dans la mesure du possible, de garder le masque tout le long, de rester à 2 mètres le plus possible.
Ouais. Le premier ministre Legault a parlé du concept de la famille. Vous êtes spécialiste de la santé publique. La santé publique, on sait, là, c'est bien des choses, c'est l'équilibre. Vous avez mentionné ce mot-là d'entrée de jeu. Mm-hmm. La famille, ça fait partie, entretenir le réseau familial, trouver du réconfort dans la famille, ça fait partie de la santé publique aussi.
Oui, tout à fait. Le réseau social est quelque chose de très important pour le bien-être et la santé mentale de la population. Mais on peut aussi maintenir ces relations via le téléphone ou via toutes les nouvelles applications qu'ils permettent et qui sont gratuites. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des rencontres familiales par Internet. Et on a autant de fun que quand on est ensemble, en face à face. Et les risques sont tellement moins élevé, en fait, on préserve la santé des plus vulnérables.
Oui, parce qu'en plus, même si on se voit, là, théoriquement, il n'y a pas de câlin. Là. On n'est pas supposé se prendre dans les bras puis se faire le gros câlin de Noël ou du jour de l'an. Il faut être prudent. Et on a encore parlé aujourd'hui, même potentiellement, quand on fait un regroupement de 10 personnes à l'intérieur, les gens devront porter le masque là, dans un monde idéal.
Oui, absolument. Et puis, au-delà des câlins et du masque, il faut se rappeler aussi qu'on n'est pas encore certain pour les aérosols. Il y a de très grandes chances qu'on puisse transmettre la COVID par les aérosols, qui sont ces gouttelettes aussi légères que l'air, tellement elles sont petites, et qui restent en suspension dans l'air. Donc, une personne qui serait porteuse asymptomatique, qui serait en pleine forme et porteuse, pourrait le transmettre à toutes les personnes qui sont dans les 10 personnes qui sont dans la bulle, qui sont dans la place, dans le parterre familial. Donc, il faut y faire attention et se méfier le plus possible. Il ne faut pas que les parties de Noël se retrouvent en regroupement funéraire 3 semaines ou un mois après.
Non, ça serait évidemment une tragédie. Dites-moi, vous êtes experte dans la santé publique, vous observez la gestion de la pandémie et la manière dont les Québécois respectent ou non les consignes. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver là avec ce que le gouvernement nous demande? C'est-à-dire de se confiner une semaine avant les rassemblements potentiels des 24, 25, 26 et 27 décembre et de se reconfiner une semaine par la suite. Pensez-vous qu'il va y avoir de l'adhésion sociale?
Mais c'est difficile pour moi de le dire parce que j'ai pas de boule de cristal là et je fais pas d'enquête régulière. L'INSPQ fait des enquêtes là-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'en général, le taux d'adhérence est de 70% dans la population. Donc, c'est déjà un bon point. Mais si on pouvait arriver à un 90 ou 95% de personnes qui respectent les mesures, ça serait encore mieux pour minimiser, en fait, les risques pour la santé de la population, pour minimiser les éclosions et les visites à l'hôpital et les soins intensifs et éviter, en fait, d'avoir c'est ça, quelqu'un dans la famille qui décède à cause de la COVID parce qu'on n'a pas respecté les règles. Il faut que les gens y pensent, ils ont envie de. Il faut que les gens pensent. Ben, leur intérêt individuel, c'est de faire le party puis de revoir du monde. Mais pensez donc aux gens que vous allez recevoir. Est-ce qu'ils sont vulnérables? Est-ce qu'il y a des risques? Et s'il y en a, est-ce que vraiment vous avez le goût de les voir se retrouver à l'hôpital et peut-être même décéder à cause de la COVID. Il faut y penser réellement.
Oui, il faut y penser, mais ce n'est pas une question souvent qu'on a le goût de se poser pour des raisons évidentes. Mais vous avez tellement raison, c'est à réfléchir. Bon, on sait aujourd'hui avec le gouvernement, les mesures du temps de Noël ont été annoncées, mais on a également reporté au minimum jusqu'au 11 janvier prochain la fermeture des bars, des restaurants, des gyms. Ça aussi, vous pensez que c'était une mesure qui était inévitable?
Oui, absolument. Particulièrement pour les gyms, c'est des endroits où à l'effort physique, on expulse beaucoup d'air et donc beaucoup de gouttelettes et d'aérosols et on peut transmettre très facilement la COVID dans ces endroits-là parce qu'on ne porte pas le masque quand on court sur un tapis ou quoi que ce soit ou qu'on fait du yoga chaud, admettons. Pour les restaurants et les bars, c'est pareil. En fait, dans l'émotivité, dans l'affection d'un party, dans un bar, il peut arriver qu'on ne respecte pas les distances et le fait qu'on mange, on enlève le masque et donc on projette également des gouttelettes et des aérosols dans l'air. Donc pour toutes ces raisons, c'est une bonne idée d'avoir maintenu ça, même si je sais que c'est très difficile pour tout ce secteur-là. Je suis très empathique avec ce secteur-là, mais c'est pour la santé de la population.
Oui, je regarde tout ça, là, toutes les mesures qui sont annoncées aujourd'hui, puis les efforts qui vont être demandés aux Québécois. Je ne peux pas m'empêcher personnellement d'y voir un plongeon dans l'inconnu, puis un plongeon assez inquiétant dans l'inconnu. Est-ce que vous partagez cette lecture-là ou vous trouvez que c'est un peu trop alarmiste?
Ben, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous dirais que mon petit gars de 9 ans disait justement « Maman, mais il y a des gens qui vont craquer à un moment ». Et je trouve que sortir des mots d'enfant, c'est sûr qu'il faut faire preuve d'une très grande résilience et il faut continuer à être persévérant là-dedans parce que c'est pour sauver non seulement nos personnes vulnérables, mais c'est aussi pour préserver nos infirmières, nos médecins et tous nos travailleurs de la santé qui se démènent à essayer de nous guérir et qui sont eux aussi à bout de souffle et qui en peuvent plus. Donc pensons à ces deux catégories de personnes-là et continuons d'être résilients. On n'est pas si mal quand même, on peut rester dans nos maisons et faire des rencontres via toutes sortes d'appareils électroniques et d'outils, de plateformes électroniques qui nous permettent de pouvoir continuer de voir du monde de manière électronique.
Ben, souhaitons que votre message soit entendu. Roxane Bergès, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Je vous en prie, bonne soirée.
Alors, bonne soirée à vous aussi. Puis, il y a tout le volet scolaire aussi qui a été évoqué aujourd'hui. Bon, on craignait peut-être à un certain moment que la rentrée des classes soit véritablement reportée au complet vers le 11 janvier, peut-être même encore plus tard. Puis finalement, le gouvernement utilise une approche un peu différente pour en parler. Égide Royer. Égide Royer, vous le connaissez, il est psychologue et professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, spécialiste en réussite scolaire aussi. Monsieur Royer, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Royer, comment vous analysez les décisions d'aujourd'hui?
On a le ministre, je pense que ça s'est inscrit aussi dans un fort mouvement de pas uniquement gérer les écoles en fonction du nombre de cas de COVID, mais véritablement prendre conscience que l'apprentissage de la réussite scolaire des jeunes était très important. C'était des phénomènes ou des questions très importantes qui amènent, entre autres, à limiter ou à protéger autant qu'ils pouvaient le faire, le temps d'enseignement d'apprentissage des jeunes. Donc, que les petits rentrent en classe là, le 4 janvier ou 4 ou 5 janvier, et que pour les grands, d'ailleurs, déjà, 3e, 4e, 5e secondaire étaient à distance à demi-temps, qu'il y ait une semaine seulement d'enseignement à distance en janvier, compte tenu des niveaux de retard scolaire accumulés par plusieurs jeunes, compte tenu des échecs scolaires qu'on entrevoit au premier bulletin et compte tenu de la situation du décrochage scolaire, c'était absolument ce qu'il fallait faire. On ne pouvait pas couper le temps d'enseignement davantage.
Ouais, vous aviez été inquiété là, par les rumeurs qui avaient circulé au cours des jours précédents là, où on parlait d'un congé prolongé.
Oui, 2 semaines. S'il avait fallu enlever 2 semaines d'enseignement, compte tenu de ce qu'on a connu le printemps passé, compte tenu qu'on a même ajouté 3 journées pédagogiques, on a rendu avec 23 journées pédagogiques, compte tenu que certains jeunes, la classe de certains jeunes ferme pendant une dizaine de jours lorsqu'il y a un cas d'éclosion, écoutez, là, c'était prévisible, et là, ce qui va manquer, il faut absolument que le gouvernement bouge, c'est des mesures pour être capable de venir en aide et de supporter les jeunes qui sont en échec scolaire ou qui ont développé des retards scolaires. On ne pourra pas attendre au 30 juin. Il faut qu'il se passe de quoi le plus rapidement possible.
Ouais. Et le Journal de Montréal nous apprend aujourd'hui, M. Royer, que le taux d'échec dans les écoles publiques, là, à l'heure actuelle, se situe en moyenne à quoi? 30 %. Mm-hmm. Il était à 10 % à la même époque l'an dernier. Dans le privé, c'est guère mieux. 25 % de taux d'échec actuellement au lieu de 5 %. Et c'est dans toutes les matières, les mathématiques notamment, il y a lieu de s'inquiéter. Hein.
Oui. De toute façon, je ne sais pas si vous vous souvenez de la capsule dont j'étais responsable du contenu que j'avais enregistré pour la rentrée scolaire. Je dis aux parents, si vous pensez que votre jeune pense à décrocher de l'école, communiquer avec votre direction, si vous pensez que votre jeune a développé des retards scolaires durant l'arrêt du printemps, communiquer à votre direction. C'était prévisible et on voyait venir ces deux questions-là. Décrochage scolaire et échec au retard scolaire. Mais le fait de ne pas avoir eu de bulletin à l'automne ne nous a pas aidés. Et ce qui fait que...
Écoutez, pourquoi ça ne vous a pas aidé?
Ça ne nous a pas aidé parce que vous venez de ramener toute l'évaluation. Chacun des bulletins va compter pour 50%. Donc, si votre grand gars, il y a 15% en mathématiques, là, 15 ou 20% en mathématiques au premier bulletin, imaginez la note qu'il devra avoir au deuxième bulletin pour être en mesure de passer, d'obtenir une note de 60%.
Donc, ça va prendre une augmentation des notes fulgurante, là.
Oui, ça va prendre probablement. Il va falloir réintroduire un bulletin intermédiaire ou il va falloir faire de quoi. Mais surtout des mesures d'aide. Vous savez, on peut se parler dans un an d'ici, mettons 18 mois, puis on va se dire tous les deux, ah, la COVID, on va en parler, on va dire, ah, c'est un mauvais souvenir, là, c'est derrière nous. Mais pour le jeune là, qui est en troisième année, qui a un retard d'un an en lecture, là, ou pour celui qui est en deuxième secondaire, et qui est en troisième secondaire, qui sont incapables là, d'avoir accès à un diplôme de secondaire 5, puis qui, dont les parents vous diront, n'eût été de la COVID, probablement que mon gars aurait été capable de réussir son secondaire. Ça, c'est un effet qui demeure longtemps. Là. Et c'est ça qu'on veut éviter. Retard de lecture, principalement au primaire, et toute la question de l'échec scolaire au secondaire. Et ça va prendre un chantier important et avec un panier de mesures encore plus puissant que ce qu'on a présentement.
Je disais ce matin dans la presse, il y a une orthopédagogue d'une école de Montréal, là, Lisiane Dupont, qui disait, elle était très, très inquiète des écarts qui se creusent dans les classes entre les jeunes pour qui c'est facile d'apprendre, là, ils peuvent manquer 2-3 jours par garde. Ils vont réussir à reprendre le retard, mais ceux pour qui là, ça, c'est impossible, ça demande un effort. Et ça, cet écart-là, dans les circonstances actuelles, il n'ira pas en se rétrécissant, là, au contraire.
Il va toujours en augmentant. Ouais. On peut espérer le limiter un peu. C'est que, regardez, c'est parce que les jeunes, on pourrait dire, écoutez, vous enseignez, vous prenez un groupe de deuxième secondaire, un groupe de sixième année l'an prochain, par exemple. Il est en cinquième année cette année. Et là, vous dites, ben là, probablement qu'en moyenne, ils ont pris peut-être 15 % de retard. Donc, vous intervenez comme si tout le monde avait pris 15 % de retard. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Les plus faibles ont creusé leur écart par rapport aux plus forts de leur groupe. Donc, ce fait que les jeunes de milieux défavorisés, les jeunes en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, l'écart va en s'accentuant. Documenté au retour de en septembre, à cause de ce qui s'était passé au printemps, j'avais des jeunes qui avaient déjà de 3 mois et demi à 4 mois de retard par rapport aux autres. Et là, on est rendu à des 5 mois, à des 6 mois, là.
Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là? Comment on va rattraper ça? Ça semble insoluble à court terme.
On commence à avoir des indications, évidemment, tous les services d'orthopédagogie professionnelle des écoles, mais si on regarde ce qui se passe à l'éducation des adultes, vous savez, j'ai 40 000 jeunes de 16 à 19 ans qui vont à l'éducation des adultes. Le taux de décrochage en formation générale des adultes, là, estimé de 40%, c'est énorme. Sauf que les jeunes qui fréquentent les milieux alternatifs, là, des gens du centre d'éducation des adultes où on les accompagne là, et qui sont en dehors des écoles, là, le taux de décrochage est de 8%. La grosse différence, c'est que ces jeunes-là sont accompagnés. Il y a un adulte qui joue un rôle de mentor, qui suit les jeunes, correspond.
On stimule, encadré, let's go, t'es capable, on va y aller, puis fais tes devoirs. Ouais.
Donc, c'est sûr que moi, j'ai fait appel, je continue à faire appel, entre autres, aux étudiants du cégep et de l'université, surtout ceux qui s'orientent vers des professions d'aide, pour devenir le mentor ou le tuteur d'au moins un jeune. Rémunéré à raison peut-être de 3 heures semaine, mais moi, durant l'hiver 2021 et durant le printemps 2021, j'ai été le tuteur ou le coach pédagogique d'un jeune du primaire ou du secondaire. J'ai été rémunéré pour le faire. Et moi, étudiant au collégial et à l'université, je me suis même senti utile, ça m'a même fait du bien personnellement à moi de pouvoir contribuer à aider quelqu'un. Présentement au cégep, là.
C'est une idée fantastique, mais dites-moi, M. Royer, là, je suis un jeune qui vous écoute ou un parent qui est un jeune qui potentiellement pourrait être mentor. On fait quoi là pour savoir comment le trouver, ce job-là? Sur Internet, il y a une ressource?
Moi, j'essaie de convaincre le ministre et le gouvernement là, d'avoir au moins que l'idée comme telle fasse son chemin. Ça commence à se faire. Ça se fait en termes de bouche à oreille. Les Carrefour Jeunesse Emploi semblent intéressés à développer quelque chose du genre, mais il y a une chose qui est sûrement réelle, c'est que les argents sont déjà dans les centres de services scolaires présentement. Des argents des argents qui ne sont pas attachés, mais qui sont uniquement destinés à venir en aide aux jeunes. Tout le monde nous dit qu'on manque de personnel, on manque de ressources humaines, on manque de ci, on manque de ça. Mais moi, je suis étudiant, en technique d'éducation spécialisée au Cégep X, je suis en deuxième année. Je peux très bien offrir mes services, moi, à la direction d'école Y, en disant je suis prêt à prendre, devenir le mentor d'un jeune qui a plus de difficultés ou qui a besoin d'un suivi. Mais ça, devenir mentor, c'est pas une présence physique, évidemment, mais autant à distance, par téléphone, être capable d'accompagner, être capable même d'échanger, rester en contact avec l'enseignant, j'ai des jeunes qu'on va réchapper comme ça. Et ça, c'est un modèle qui existe en Grande-Bretagne présentement, où on a une organisation même structurée de mentorat, de tutorat.
Bon, ben c'est une idée fantastique, M. Royer. Souhaitons que le gouvernement soit à l'écoute puis qu'on facilite surtout la possibilité pour des jeunes de donner un coup, de l'aide à ceux qui en ont besoin. Égide Royer, vous êtes psychologue, professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Merci beaucoup Laval. D'avoir été avec nous. De l'Université de Laval, bien sûr. Oh là là, l'Université de Laval, mon alma mater en plus. Merci, M. Royer.
Bye-bye.
OK, au retour, il y a Mario Langlois, il y a Catherine Beauchamp, puis on va conclure le show en beauté.